France Inter.
Un budget d'économie juste, un budget de protection et d'investissement, ce ne sont pas que des mots, un budget qui repousse la fiscalité déraisonnable ou déconnectée de la réalité économique, et au final un budget dont le déficit se réduit. Le déficit ne devra pas dépasser 5%. Nous y arriverons, et si la croissance est soutenue, ce sera sans doute peut-être moins.
Peut-être dans la même phrase, bon, c'est à nous de choisir. Hein. C'était hier, 18h30, Sébastien Lecornu propose de nouvelles mesures pour faire passer un budget sans faire sauter son gouvernement. L'éclairagiste était-il souffrant ? Ou la semi-pénombre de l'allocution était-elle désirée ? Peut-être afin que le téléspectateur cherche la lumière dans les annonces du discours. Le Premier ministre a fait simple, il a assuré que ce nouveau budget aurait trois qualités. Meilleur, rassembleur, responsable. Meilleur, sans doute, en tout cas moins amer, il y avait plus de douceur pour chacun. On garde les allègements de charges et le soutien à l'apprentissage, on garde l'abattement des retraités, on garde l'impôt sur le revenu qui n'augmente pas, voilà pour le centre et la droite. Il y a eu du sucré aussi pour les socialistes, on augmente la prime d'activité, pour tous les jeunes, le droit au repas à 1 euro, 400 millions pour le logement social et rien qui pèse sur les APL. Par conséquent, un budget rassembleur, en tout cas suffisamment pour éviter la censure, disons peut-être. Et alors, un budget responsable, eh bien peut-être aussi. Ces dépenses supplémentaires, elles pèseraient 7 milliards, c'est un calcul de journaliste, hein, à la louche. Mais comment atterrit-on à 5% de déficit ? Quelles missions de l'État seront rabotées ? Quelles surtaxes pour les grandes entreprises ? Quel effort au final pour les collectivités locales ? Hier soir, Sébastien Lecornu a tourné le dos au micro pour remonter les escaliers. Jusqu'à mardi, c'est en coulisses que ça se joue. Et nous, nous sommes restés dans la semi-pénombre. L'éclairagiste n'y était pour rien.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue, c'est samedi, c'est Économie avec Valentin Pérez, Céline Hila, Anne-Cécile Perrin, Florian Dittre au mix et Julien Thévenot à la technique. Et puis vous tous, ça nous fait une belle bande. Hein. Vous êtes plus de 2,5 millions d'auditeurs, Médiamétrie nous l'a dit cette semaine. Merci de votre fidélité et même si on est à la radio, on vous envoie tous un très grand cœur avec les doigts. Qu'est-ce qu'on vous a préparé ce samedi qui pourrait vous intéresser ? Nous allons beaucoup parler de souveraineté. L'invité de ce 17 janvier, c'est le haut-commissaire à la stratégie et au plan pour regarder plus loin, pour faire de la prospective sur nos grands enjeux. C'est aussi un ancien ministre de l'Europe. Interview de Clément Beaune vers 9h40. Le jour de la signature du Mercosur au Paraguay, question sur notre souveraineté alimentaire, un sujet de fond pour les agriculteurs qui s'angoissent de voir les importations augmenter et les exportations diminuer. Vous entendrez le reportage de Luc Chemla. C'est aussi le jour de notre rendez-vous ce samedi avec Madame Vioboulot, la voix qui nous guide dans le monde du travail. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Ce matin, Sandrine, la question vous est posée par notre auditrice Marion, qui fait partie des 2,5 millions. Merci Marion. Elle nous écrit d'Angoulême. Elle a une question de saison sur l'entretien annuel d'évaluation.
Oui, Marion est ouvrière. Elle travaille sur un poste qui ne nécessite pas d'ordinateur. Son employeur voudrait qu'elle prépare cet entretien sur son matériel personnel. A-t-il le droit de lui demander ça ? Je vous réponds tout à l'heure.
Oui, on se retrouve juste avant le rideau de fin du Magéco, juste avant 10h. Mais tout de suite, le rideau se lève avec, sur scène, notre duo d'économistes. Anne-Laure Delatte, bonjour.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Et bonjour à vous Patrick Artus.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes conseiller senior chez le gestionnaire d'actifs Ociam. Alors cette semaine encore, un coup de théâtre pour le monde économique aux États-Unis avec cette enquête du ministère de la Justice. Justice à l'encontre du président de la Réserve fédérale et Jérôme Powell qui a fait une allocution solennelle. Le sujet en réalité dépasse les USA. On a aussi eu cette lettre des dirigeants de grandes banques centrales de la planète, c'est très rare, hein, qui sonne l'alarme pour défendre leur indépendance. Nous avons choisi pour le débat une question provoque. Et si Trump avait raison ? Au nom du poids des décisions des banques centrales dans nos vies, dans la vie des citoyens, jusqu'où les gouvernements seraient-ils en droit de se mêler de politique monétaire ? Vous allez voir, on va poser ça, mais très simplement, c'est le débat.
La prochaine étape du conflit entre Donald Trump et Jerome Powell se jouera peut-être devant les tribunaux.
Turning now to breaking news, the New York Times reports that federal prosecutors are said to have opened an inquiry into Fed Chair Jerome Powell.
The threat of criminal charges. Je fais l'objet de menaces de poursuites judiciaires.
Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine.
Parce que la Fed a choisi des taux d'intérêt favorables aux Américains plutôt que de suivre les préférences du président. Parfois, servir le public nécessite de rester inflexible face aux menaces.
À la Fed, on a un véritable rabat-joie.
Donald Trump, président des États-Unis.
Aujourd'hui, si vous annoncez de super bons chiffres, eux, ils montent les taux et ils cassent tout le travail. Et vous ne pouvez jamais avoir le rebond espéré. Autrefois, quand vous aviez de bons chiffres, les taux d'intérêt baissaient et le marché décollait. On va revenir à ça. C'est ça la bonne vieille méthode. C'est comme ça qu'on redonne la grandeur à un pays.
Comment on qualifie un État qui instrumentalise son système de justice à des fins politiques?
République de bananes.
C'est une république de bananes, oui, je suis bien d'accord.
Plusieurs de ses homologues y voient là une ingérence politique. La Banque Centrale Européenne lui a affiché son soutien dans un message sur son site internet.
L'indépendance, c'est pas une chose que les banquiers centraux ont décidé un matin en se disant « Tiens, ça serait plus sympathique si nous étions indépendants. »
François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France.
C'est dans l'intérêt des citoyens. Pourquoi ? Parce que d'expérience, une banque centrale indépendante lutte mieux contre l'inflation.
S'il devait y avoir vraiment une sorte de putsch, moi j'appelle ça comme ça,
Natacha Valla,
sur la réserve fédérale,
économiste, doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po.
Moi je pense que de façon très rapide, les marchés financiers réagiraient assez fortement. La dette américaine serait sous pression, le dollar serait sous pression aussi. Il faut bien comprendre qu'il y a un lien très très étroit entre l'évolution des prix dans un État et la valeur de la monnaie qui est émise par la banque centrale de cet État.
Anne-Laure Delatte, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut commencer par nous rappeler, par rappeler à tout le monde, le feuilleton entre Donald Trump et Jerome Powell, le patron de la Banque centrale américaine, qu'on appelle la Réserve fédérale?
Ok, alors Jerome Powell, c'est l'équivalent de François Villeroy de Gallo pour nous. C'est le gouverneur de la Banque centrale américaine qui s'appelle donc la Réserve fédérale. Et qu'est-ce qui se passe? Jerome Powell, il est nommé par Donald Trump en 2017, mais très vite, il va être critiqué par Donald Trump qui l'appelle « too late », monsieur trop tard. Pourquoi? Parce que Trump déjà commence à mettre un peu la pression pendant son premier mandat et lui reproche de laisser des taux d'intérêt trop élevés. Mais là, il y a une énorme escalade. Alors, 2026 a très très mal commencé partout.
Voilà, on va le dire comme ça, ouais.
Mais en réalité, il s'est passé un truc extraordinaire dans le monde très conservateur des banques centrales. C'est que là, on a un ministère de la justice américaine qui est instrumentalisé. C'est-à-dire qu'il a mis une procédure extrêmement coercitive sur sur la réserve fédérale pour lui exiger des papiers, un témoignage sur une affaire de travaux. En fait, on s'en fiche.
Oui, c'était quoi? C'était de la rénovation de façade, hein, c'est ça,
c'est
Patrick?
Ça,
ouais.
Mais c'est dingue. C'est-à-dire qu'il y avait, j'ai regardé, il y avait deux ou trois crans avant dans la procédure pour faire les choses beaucoup plus calmement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un signal d'extrême pression de l'exécutif sur une agence indépendante. Mais alors, c'est vraiment l'agence la plus indépendante dans une gouvernance qui est la Banque Centrale, la Banque Centrale Américaine.
Et pourquoi est-ce que Donald Trump, Patrick, veut faire partir Jerome Powell? Est-ce que c'est ça son but, alors que son mandat, finalement, il va se terminer dans quelques mois? Ou est-ce qu'il veut imprimer quelque chose d'autre?
Oui, alors, on peut avoir des motifs légitimes de critiquer l'action des banques centrales. On en parlera peut-être
oui,
dans un instant.
Oui, on en parlera, mais juste pour finir sur le feuilleton américain.
Sur Trump, son objectif est clair. Il veut des taux d'intérêt très bas. Il a mentionné des taux d'intérêt entre 0 et 1%. Aujourd'hui, la Réserve fédérale a fixé les taux d'intérêt à 3,5%. Et tout le monde pense qu'elle va baisser encore un peu ses taux d'intérêt vers 3%, mais qu'elle va jamais aller vers 0 ou 1. 0 ou 1, ça soutiendrait le marché de l'immobilier, ce qui est très très avantageux pour la famille Trump. Ça soutiendrait le marché des actions américaines et ça serait catastrophique sur les perspectives d'inflation et sur la crédibilité de la politique monétaire des États-Unis, sur le rôle international du dollar. Mais ce que Trump veut en réalité, c'est prendre le contrôle d'une institution qui s'appelle le FOMC, qui sont les 12 personnes qui votent sur les orientations de la politique monétaire. Et donc il veut remplacer le le plus possible de personnes de ce comité par des gens qu'il a nommés lui-même. Pour l'instant, il est très minoritaire dans ce comité. La Réserve fédérale, c'est une institution très transparente. Elle publie les prévisions de chacun des membres de ce comité, du FOMC, sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Et on voit dans la dernière publication qu'ils pensent que les taux d'intérêt vont aller vers 3%. Donc, ils sont très raisonnables. Il y en a un qui est Stephen Miran, qui est un nommé de Trump, qui veut 2%, mais enfin, tous les autres veulent 3%.
Donc, pour l'instant, il a du mal.
Pour l'instant, il est très minoritaire, mais il veut prendre le contrôle de la Réserve fédérale pour baisser violemment les taux d'intérêt.
Et ça, Anne-Laure, ça rend inquiet. Dites-nous pourquoi tous les banquiers centraux des grandes banques centrales ont réagi. Ça les rend inquiets.
Oui, parce qu'en fait, Trump est en train de remettre en question quelque chose qui était évident pour tout le monde depuis les années 80, c'est l'indépendance des banques centrales. En fait, ce que vient d'expliquer Patrick, c'est le mouvement des taux d'intérêt dans une économie. En gros, c'est comme un frein, une pédale de frein que le banquier central active quand il y a trop d'inflation. Donc, on pousse sur le frein quand il y a trop d'inflation, ça, on augmente le taux d'intérêt. Mais aux États-Unis, on regarde aussi un autre voyant qui est l'activité économique. En fait, quand le banquier central appuie sur le frein, OK, ça réduit l'inflation, mais ça réduit l'activité. Donc, c'est pour ça que Trump voudrait qu'on baisse, donc en fait, qu'on relâche la pression sur le frein. Mais ça inquiète tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voyez mon image de frein. Si vous mettez un élu ou une élue devant ce frein-là, en fait, lui ou elle va faire la course pour gagner les élections et il n'a jamais intérêt à appuyer sur le frein. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, si on appuie trop sur le frein, on va ralentir l'activité, donc on va créer du chômage et ça vous garantit de ne pas être réélu. Donc Trump, il a vraiment un cycle électoral dans la tête et il veut contrôler ses taux d'intérêt, ce qui est absolument contre le principe d'indépendance qui a été mis en évidence il y a plus de 45 ans par Kidland et Prescott, par Barrow Gordon. Vous avez toute une littérature économique là-dessus.
Patrick Artus, les banques centrales, elles sont indépendantes. C'était pas donné, mais ça a été démontré. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité économique à l'indépendance des banques centrales. C'est pour ça qu'elles sont indépendantes ?
Oui, alors il y a une efficacité. Enfin, les banques centrales sont indépendantes, sont ce qu'on appelle crédibles. C'est-à-dire, la plupart des gens croient que la banque centrale ne va pas laisser réapparaître de l'inflation. Et ça fait la grande différence entre les banques centrales contemporaines, les grandes banques centrales, je ne parle pas de la banque centrale d'Argentine, etc., mais les grandes banques centrales contemporaines et les banques centrales du passé. Et il ne faut pas perdre cette qualité de crédibilité, parce que le moment qu'une banque centrale n'est pas crédible, eh ben, tout le monde va anticiper que l'inflation va augmenter, les taux d'intérêt vont augmenter, et ça sera totalement contre-productif, y compris sur le niveau de l'activité. D'ailleurs, le résultat de cette littérature économique que mentionnait Anne-Laure, c'est que si une banque centrale n'est pas indépendante, vous perdez sur l'inflation, parce qu'il y a plus d'inflation, mais vous ne gagnez pas sur la croissance. Hein. Et donc, il faut garder des banques centrales indépendantes. Je crois qu'il y a un consensus global.
Mais,
question, c'est, est-ce qu'on peut changer le mandat des banques centrales ? Comme Anne-Laure disait, le mandat de la Réserve fédérale, c'est mixte. C'est la croissance et l'inflation. Le mandat de la BCE, ce n'est que, enfin, essentiellement l'inflation.
Mais c'est en effet ça le sujet. C'est-à-dire que la Banque centrale, elle poursuit, par exemple, la BCE, elle poursuit ses 2% d'inflation. Du coup, les taux d'intérêt sont plus hauts. Est-ce qu'avec 3% d'inflation, on ne se porterait pas mieux, finalement, si la Banque centrale relâchait un peu, ou bien si elle regardait d'autres objectifs ? Est-ce que c'est questionnable ? C'est ça qui fait Trump, avec son côté extrême, mais c'est ça qui fait Trump.
Oui, enfin, il le fait vraiment de façon beaucoup trop violente et brutale, et ça ne va pas du tout faire avancer. Cette réflexion, elle a lieu depuis longtemps. Hein, la remise en question de l'indépendance du mandat de la Banque centrale. En fait, il faut faire la distinction entre le mandat et l'exécution. Il me semble, en gros, ce qu'on vient d'expliquer sur l'indépendance des banques centrales, c'est enseigner à nos étudiants, c'est vraiment le béaba de la politique monétaire. C'est un raisonnement hyper robuste et il y a eu un prix Nobel là-dessus en 2004. Mais maintenant, il y a des critiques, et ces critiques, elles sont hyper constructives, elles sont venues pour moi de deux endroits. Premièrement, la société civile, surtout les défenseurs du climat, qui ont dit à un moment, attendez, dans votre mandat, vous ne vous intéressez que à l'inflation ou que à l'inflation et à l'activité, mais vous savez que le climat est en train de se dérégler et donc vous ne pouvez pas faire comme si. En fait, même votre politique monétaire est peut-être même en train d'encourager l'investissement dans des entreprises qui polluent, etc. Donc ça a été la première grosse critique et ils ont gagné d'un certain côté parce que...
Oui, à la BCE, il y a eu des assouplissements, les objectifs prennent en compte aujourd'hui plus l'environnement, c'est
oui,
ça ?
Oui, non mais c'est surtout qu'on a réussi à dire un truc tout bête, c'est que en effet, si le climat se dérègle, on va remettre en question complètement, ça va remettre en question la stabilité financière, la stabilité des prix, et donc c'est normal de prendre ça en compte. Alors après, ça ne l'est pas du tout assez. Et la deuxième critique, qui à mon avis est fondamentale, elle est venue de la science politique, qui a dit, attendez, en fait, cette indépendance, ces agences extrêmement indépendantes, c'est une façon de gouverner, soi-disant neutre, mais qui dépolitise des sujets hyper importants. En réalité, vous dites...
Ils ne sont pas élus de façon démocratique, les gouverneurs.
Mais ils ne sont pas délibérés. Mmh. En fait, le mandat, il est très peu... Il n'y a pas de délibération sur ce mandat. Alors, non seulement le gouverneur est nommé, mais surtout le mandat, c'est-à-dire, vous voyez, les objectifs de la politique monétaire, il n'y a pas de délibération là-dessus. Les nôtres, il est inscrit... Le mandat de la Banque Centrale Européenne, il est inscrit dans un traité. Vous voyez la difficulté.
Alors, cela étant, il y a une souplesse, parce que le traité ne dit pas quel est le niveau de l'objectif d'inflation. On pourrait garder le mandat de la BCE et dire, ben, compte tenu, par exemple, des nécessités énormes d'investissement pour préparer la transition énergétique, pour développer l'économie numérique, pour faire des investissements dans le savoir, dans l'éducation, on change le mandat pour accepter un petit peu plus d'inflation, compte tenu que ça soutiendrait l'investissement, ça soutiendrait les investissements nécessaires. Donc il y a une flexibilité. Mais je crois qu'il faudrait pouvoir avoir un vrai débat sur cette flexibilité. Et pour l'instant, en Europe, en particulier, ce débat n'est pas ouvert.
Mais vous êtes d'accord tous les deux pour dire qu'il ne faudrait pas que les politiques entrent, ça, non, vous l'avez démontré tous les deux, ça serait dangereux.
Il faut garder l'indépendance, mais on peut dire que comme on a introduit le climat dans les objectifs, on pourrait introduire le soutien des investissements indispensables à réaliser la transition.
Ou alors l'idée qu'il va falloir éviter une crise de dette publique.
Alors, éviter une crise de dette publique, alors c'est assez différent, parce qu'une crise de dette publique, c'est extrêmement brutal. Ça normalement nécessite pas de changer la politique monétaire dans le long terme. Ça nécessite plutôt que la Banque centrale dise, comme les banques centrales l'ont dit en Europe dans les années 2010, disent je n'accepterai pas qu'un État fasse défaut.
Ouais, je pense qu'il faut retenir, c'est que il faut qu'on ait plus de délibération dans le mandat, dans les objectifs. Et en effet, vu les besoins de financement des prochaines années, les dettes publiques vont augmenter et donc on va de nouveau avoir besoin de la Banque centrale pour assouplir les taux. Mais il faut qu'il y ait une délibération sur le mandat, il faut que les citoyens et citoyennes soient capables de rentrer dans la conversation. Alors il y a plusieurs modalités, mais surtout il faut garder une autonomie, une indépendance dans l'exécution, et surtout pas l'inverse.
Et là, vous êtes complètement d'accord avec Patrick Artus. Anne-Laure Delatte, Patrick Artus, ils ont fait le débat du Mag Echo ce samedi 17 janvier.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de industrialización
en unemployment and lower job creation.
Allez l'écho comme elle se passe ailleurs, on va parler de souveraineté, nous partons en Allemagne.
Amazon Web Services, kurz AWS, und die ist der weltweit größte Anbieter von Speicherplatz, von Clouds. Jetzt will Amazon Web Services unabhängig von den USA werden und hat heute in Potsdam die erste europäische Cloud vorgestellt.
Bien sûr, je traduis. Amazon Web Service est le plus grand fournisseur mondial d'espace de stockage dans le cloud. Ça, c'est le journal télévisé jeudi de la chaîne de télévision allemande RBB. Désormais, AWS veut devenir indépendant des États-Unis. et a présenté aujourd'hui à Potsdam son premier cloud européen. Voilà le sujet, voilà la question. Est-ce qu'Amazon, l'entreprise de Jeff Bezos, peut être un pilier de la souveraineté numérique européenne ? Bonjour Sébastien Baer.
Guten Morgen Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter en Allemagne, où Amazon a donc décidé de localiser ce cloud, montant de l'investissement 7,8 milliards sur 15 ans, avec à la clé la création de 2800 emplois. Ça serait ça donc, hein, le prix de l'indépendance.
Oui, on peut dire ça. L'indépendance est en tout cas la promesse répétée plusieurs fois, martelée même par les équipes d'Amazon quand elles ont lancé en grande pompe il y a deux jours, c'était jeudi, ce projet. Tout se passe au sein de l'Union européenne, un peu comme sous une cloche. Il n'y a aucun lien, ni physique, ni juridique, avec les autres serveurs d'Amazon dans le monde. Le nouveau centre est basé en Allemagne, siège social à Potsdam, à quelques kilomètres de Berlin, avec bientôt deux antennes dans le Brandebourg, la région qui entoure la capitale. Aux manettes, une équipe 100% européenne, équipe qui va assurer la gestion des serveurs, les opérations. La gouvernance, elle est confiée au Français Stéphane Israël, l'ancien patron d'Ariane Espace, qui va travailler aux côtés d'un ex-chef d'état-major de l'armée de l'air française. Pour les gens de la tech, c'est tout simple en fait. C'est une façon de rassurer les clients européens, car on le sait, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, beaucoup redoutent de perdre le contrôle de leurs données si elles sont hébergées sur des serveurs basés outre-Atlantique.
Et alors Sébastien, comment l'annonce de ce cloud guillemets souverain et indépendant guillemets est-elle accueillie en Allemagne?
Ouais, vous avez raison de mettre les guillemets, Alexandra, parce que les réactions, elles sont prudentes. Des experts du numérique rappellent qu'AWS reste malgré tout une entreprise américaine, qu'une séparation juridique complète entre la société mère basée aux États-Unis et la filiale européenne n'est pas possible. AWS demeure donc potentiellement soumise au Cloud Act, vous savez, cette législation qui permet aux autorités américaines d'exiger l'accès à certaines données, même si elles sont hébergées en dehors des États-Unis comme au sein de l'Union européenne. D'autres insistent aussi sur le risque d'accroître encore la dépendance technologique vis-à-vis des géants américains du secteur, et ce au moment où l'Union européenne tente, pourrait-on dire, de reprendre en main son destin numérique. Certains experts rappellent d'ailleurs que des alternatives européennes existent déjà, comme le groupe français OVH Cloud et les Allemands Jonas et Stackit. Un dernier mot, Alexandra, pour vous dire que vous rappelez que lors du sommet sur la souveraineté numérique européenne en novembre à Berlin, oui, Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont appelé à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs de cloud américains, fournisseurs qui ont la main mise sur près de, devinez combien,
ah oui,
80% du marché européen.
80% en effet. Sébastien Baer avec nous de Berlin. (Musique) 9h35 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, notre invité, c'est le haut-commissaire à la stratégie et au plan, Clément Beaune. Des questions sur la souveraineté, sur l'éco-chèque, sur sa proposition en faveur du Made in France, sur le budget aussi, et puis sur le Mercosur. Le traité est donc signé ce samedi par l'Union européenne, malgré l'opposition de la France et surtout de nos agriculteurs qui redoutent les importations d'Amérique du Sud. Une angoisse qui s'explique aussi par l'érosion de notre balance commerciale alimentaire. Pour la première fois depuis 1978, elle risque d'être déficitaire ou à peine à l'équilibre. C'est à la fois une fierté française qui est fragilisée et une source de revenus qui diminue. Ces dernières décennies, vous le savez, les produits agricoles et agroalimentaires ont rapporté plus à l'export que les avions et plus que les voitures. Exemple ce matin d'une filière en crise, les céréaliers qui ont affirmé, c'était jeudi, être au bord de l'effondrement économique. Allons voir ce qui se passe dans les champs. Notre reporter Luc Chemla nous emmène à Choconin, Neufmontier, c'est tout près de Meaux, en Seine-et-Marne.
Bonjour, Philippe Ozel, agriculteur en Seine-et-Marne, producteur notamment de céréales et d'autres diverses cultures. Et là, on est devant un champ de blé d'hiver, du blé tendre qui sert à la production de pain et tout ce qu'on peut faire avec de la farine. C'est la période de dormance de la culture, il a été semé au mois d'octobre, et puis en ce moment, il est ce qu'on appelle au stade talage, c'est-à-dire le moment où le grain de blé se divise en plusieurs tiges possibles. Ça ressemble à un terrain de foot rasé de près, d'une certaine façon. Alors, à l'image de la production céréalière française, la moitié de ce qu'on produit ici part à l'exportation, pour petite moitié chez nos voisins de l'Union européenne, Belgique, Italie, Espagne, etc. Et puis pour une autre plus grosse moitié, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et le proche Moyen-Orient. C'est les destinations les plus courantes pour le blé français. On a 120 tonnes de blé ici, on en a 70 ici.
Alors vous avez une double casquette, vous êtes à la fois producteur, mais vous êtes aussi représentant de la filière céréales en France.
Oui.
Comment se portent justement les exportations françaises de céréales là, depuis quelques années, et notamment comment ça s'est passé en 2025?
Alors les exportations connaissent des difficultés. En 2024, elles ont fortement diminué pour des problématiques météo. Et donc là, le volume conjugué à une baisse des prix du cours international a provoqué une chute en céréales donc sur l'année 24-25 hein, de plus de 50% des possibilités d'exportation. Alors on a continué à servir nos clients européens les plus proches finalement de façon assez correcte, mais on a eu, au lieu d'exporter 10, 11, 12 millions de tonnes sur les pays tiers, on n'a pu exporter que 3 millions de tonnes. En même temps, on a une concurrence accrue, alors qu'il y a 20 ans, on était numéro 2 en termes d'exportateurs. Donc il y a eu un changement hein, sur le podium, si je puis dire, où les Russes, il y a 25 ans, étaient encore importateurs de blé, français notamment. Et puis, depuis 2014 notamment, ils sont, et de loin, les leaders sur le marché mondial du blé.
Donc
ils sont vraiment sixième.
Les céréales ne sont pas les seuls produits à subir un tel recul. Parmi nos filières historiquement fortes sur l'exportation, les vins et spiritueux ou les produits laitiers sont aussi concernés. En volume, tous secteurs confondus, les exportations agricoles ont baissé de 20% entre 2015 et 2024, d'après le rapport de l'Observatoire des exportations alimentaires. Yannick Fialippe, éleveur et producteur laitier en Haute-Loire, est l'un de ses auteurs. Il préside également le Centre national pour la promotion des produits agricoles et alimentaires.
Comme un élève à l'école qui voit ses notes de passer de 20 à 10 et puis finir à proche de zéro, on peut dire qu'on s'est reposé sur nos lauriers. On n'a peut-être pas pris conscience du poids économique de l'exportation agroalimentaire. Il y a des normes, je dirais, sanitaires qui sont assez élevées en France, qui nous freinent à l'exportation. À titre d'exemple, il y a environ 4 ans, on avait décidé en France de supprimer la désinsectisation des paquebots qui transportaient des céréales à destination du porteur méditerranéen. Et nos clients demandaient à désinsectiser les bateaux, parce que notamment ce qu'on appelle le charançon, qui est un petit insecte qui vient de manger la céréale, chez eux, quand il fait plus chaud, il se développe fortement, et donc ils voulaient avoir cette désinsectisation. Et nous, en France, au principe de précaution, on l'arrête. Et donc on a perdu du jour au lendemain ces clients-là. Alors, on est revenu sur cette norme-là, mais voilà, c'est le titre d'exemple qu'on n'a pas une politique qui est toujours menée en faveur de l'export. C'est aussi de la norme, je dirais, des capacités de production. L'exemple de la pomme est très marquant. La France exportait 600 000 tonnes de pommes. Aujourd'hui, on est passé à 200 000 tonnes. Et on l'a compensé par autant d'importations venant de Pologne. Parce que, voilà, on n'a pas donné la capacité à nos producteurs de pouvoir se protéger par rapport à un certain nombre d'insectes qui venaient dans nos vergers. Donc, on voit bien que c'est à la fois de l'économie, mais c'est aussi de la géopolitique, l'agroalimentaire. Par exemple, le marché algérien, qui était un gros marché pour les céréales françaises, aujourd'hui est complètement fermé. C'est aussi la Chine, où l'année dernière, suite à un différend sur les batteries de voitures électriques, la Chine a décidé d'avoir des mesures de rétorsion sur le porc et sur le lait. Et ce qu'on voudrait, c'est que le gouvernement, le président de la République, quand il va sur des rencontres sur des pays étrangers, qu'il emmène une délégation agricole, parce que c'est par là qu'on fera passer aussi le message comme quoi on peut exporter nos richesses produites par nos agriculteurs français.
Pendant que les exportations diminuent dans de nombreux secteurs, les importations, elles, augmentent. Aujourd'hui, par exemple, un poulet sur deux que nous consommons est importé. Pour les fruits et légumes, c'est 1 sur 3. Me voilà maintenant, en Saône-et-Loire, je me rends à Montceau-les-Mines à la rencontre d'Emmanuel Bernard. Il est éleveur de charolais et président de la section bovine au sein de l'organisation professionnelle Interbev.
Donc là, nous sommes donc à FEDER, c'est une coopérative, c'est un lieu, on pourrait dire une gare de triage d'animaux qui sont collectés dans les exploitations agricoles et qui sont redistribués soit pour des destinations d'autres éleveurs en France ou en Italie pour de l'engraissement, ou alors qui sont orientés dans différents abattoirs de la région. La quantité d'importation aujourd'hui, on a passé les 25% en France, alors qu'on était à 22%. Dépendre de plus en plus de l'importation, c'est un vrai danger, et que non seulement c'est une importation d'Europe, souvent hein, c'est d'Allemagne, d'Irlande, des Pays-Bas et de Pologne. Mais là, les conditions de production sont assez semblables, mais on voit qu'on a aussi une augmentation de l'importation, on appelle ça de pays tiers, hors Europe. Et là, ça devient très très inquiétant. problématique. On a perdu plus d'un million de vaches depuis 2016 par une décapitalisation, c'est-à-dire on a envoyé les vaches à l'abattoir. Il y avait un problème de rentabilité pour les éleveurs parce qu'on était sur des niveaux de revenus très faibles. Entre 2016 et 2023, le revenu agricole chez les éleveurs bovins viande était presque le plus bas. Donc ça explique l'arrêt des exploitations agricoles.
Ce quart-là de viande importée, c'est où qu'on la mange ?
Elle va essentiellement dans la restauration. Donc ça peut être le restaurateur du coin qui fait son steak frites du midi. Ça peut être aussi les chaînes de restauration qu'on connaît tous. On est à plus de 55% de viande importée dans la restauration commerciale en France.
Si ces restaurateurs choisissent d'acheter de la viande importée, souvent moins chère que la viande française, c'est notamment pour augmenter leur marge. Alors, rester souverain dans l'agriculture, comment y parvenir ? La ministre Annie Genevard a lancé en décembre une série de conférences. Les conclusions sont attendues cet été. Pour Thierry Pouche, le chef économiste de la Chambre d'agriculture, c'est toute la stratégie nationale qu'il faut repenser. J'ai rendez-vous dans son bureau, près des Champs-Élysées.
Il y a eu pendant plusieurs années une stratégie qui a consisté à développer les produits de gamme moyenne ou de haut de gamme, donc des produits de qualité, par exemple des appellations d'origine, des indications géographiques ou des produits issus de l'agriculture biologique. Un vin qui est sous indication géographique, il y a un marqueur territorial, donc il se vend relativement cher. Ça peut être du 50, 60, 70 euros, voire plus la bouteille. Sauf que la situation européenne et la situation internationale n'est quand même pas très porteuse en termes de croissance économique. Donc ça, c'est une stratégie qu'il faut peut-être réviser parce que nos concurrents, eux, ont plutôt misé sur des stratégies d'affaiblissement de leurs coûts de production. Et nous, si on a reculé sur l'Union européenne, c'est précisément dans les pays de l'Est, puisqu'on avait des prix qui étaient beaucoup plus élevés que nos concurrents allemands. Et donc, sur la viande porcine, par exemple, ils ont remporté des parts de marché à notre détriment. Donc là, il faut chercher maintenant, dans la situation actuelle, d'une part, à essayer de sécuriser nos propres débouchés, ce qui est quand même assez compliqué aussi, et essayer de trouver des marchés qui expriment des besoins alimentaires. Alors, c'est le cas de l'Afrique subsaharienne, c'est le Nigeria, par exemple, qui a énormément besoin de céréales. L'Iran est dans une situation assez compliquée, comme on le sait, et indépendamment de ce qui se passe, c'est aussi de la sécheresse, et ils ont besoin de céréales. Donc, nous sommes sur des perspectives de demande mondiale qui sont plutôt orientées à la hausse. Donc là, il y a quand même toute une stratégie à revoir de fond en comble.
L'agriculture entre importation et exportation, comment rester souverain ? C'était le reportage de Luc Chemla.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
On continue cette réflexion sur la souveraineté avec le haut commissaire à la stratégie et au plan. Bonjour et bienvenue Clément Beaune.
Bonjour, merci.
Votre organisme, il est rattaché à Matignon. Il est chargé de voir loin et de faire des propositions pour que le pays s'adapte au changement avec un S, on va en parler. Mais d'abord, vous qui avez été secrétaire d'État puis ministre en charge de l'Europe dans les gouvernements Castex puis Borne, ce Mercosur signé aujourd'hui au Paraguay, la classe politique, elle a été unanime à le condamner. Mais sur le plan économique, est-ce qu'il faut croire ceux qui disent que ce traité est un traité de libre-échange d'un autre âge, ou est-ce qu'il faut croire ceux qui disent que ça ouvre des marchés à l'heure où les États-Unis et la Chine se referment ?
C'est vrai que ce traité-là, qui date de 1999 en réalité dans sa négociation, il est dépassé parce qu'il ne prend pas en compte, même si on l'a obtenu dans la dernière ligne droite, des améliorations, les accords de Paris et la protection de l'environnement, tous les sujets de sécurité alimentaire qui sont aujourd'hui légitimement une grande préoccupation des consommateurs, avec des règles qui sont beaucoup renforcées sur le plan environnemental, sanitaire chez nous, en France, en Europe, et pas dans les autres pays, pas seulement le Mercosur. Et donc il faut penser autrement, renforcer les contrôles, vérifier sur place, etc. On a obtenu encore une fois, par la mobilisation de la France, un certain nombre de ces améliorations-là. Dans d'autres traités aussi, d'ailleurs, le fameux CETA avec le Canada, c'était un modèle qui a montré qu'on pouvait changer un peu le logiciel, si je puis dire, des accords commerciaux. Donc le Mercosur, il représente, si vous voulez, cet âge précédent et dépassé, je crois, des accords commerciaux. Maintenant, il faut regarder vers l'avenir. Il va y avoir, dans le monde de Trump, si je puis dire, avec des tarifs, avec de la brutalité commerciale, la nécessité pour l'Europe d'avoir des débouchés, d'avoir des partenaires, parce qu'un accord commercial, c'est aussi un accord géopolitique. Et donc, il y a la crispation sur le Mercosur et on le comprend, mais il y aura bien des négociations commerciales à mener dans l'avenir avec l'Inde, avec d'autres grandes régions du monde.
Il va falloir signer d'autres traités, peut-être en négociant différemment.
Je le crois, mais en négociant différemment et surtout, et là je crois qu'il y a une responsabilité de la France, au bon sens du terme, de faire des propositions, parce que c'est pas blanc ou noir, c'est pas il n'y a plus d'accords commerciaux où on libéralise tout et on fait un accord de libre-échange sans aucun contrôle et sans aucun garde-fou. Des choses qu'on a mises dans le débat, les clauses de sauvegarde, c'est-à-dire quand vous avez une filière agricole ou autre qui est très en difficulté, on peut se protéger temporairement. On les a renforcés d'ailleurs dans les accords récents, y compris le Mercosur. Ce qu'on appelle les clauses miroirs, c'est un peu technique ou techno, si je puis dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous imposez des règles à vos agriculteurs ou à vos industriels, bah vous imposez les mêmes règles à ceux qui exportent vers votre marché.
Et il faut avoir les moyens de contrôler.
Il faut avoir les moyens de contrôler. Donc, en fait, les accords commerciaux, il y a une génération, c'était on baisse les tarifs. Il y a une autre génération, c'est un peu le Mercosur, c'était on s'ouvre dans des grands secteurs et on regarde un petit peu les règles qui s'appliquent, pas seulement les tarifs. Et aujourd'hui, il faut qu'on impose notre modèle. Et on le peut. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Il suffit juste que l'Europe, au début des négociations, c'est ça l'erreur qui a été faite dans le Mercosur, on l'a fait à la fin, au début des négociations, impose le respect de l'accord de Paris, des clauses miroirs, des contrôles renforcés, et qu'il y ait un modèle européen des accords commerciaux. Je ne crois pas du tout au repli commercial. Il faut un autre modèle alternatif à Trump.
On a le sentiment que Trump est en train de réécrire toutes les règles, de redessiner tout le paysage, hein, sur le commerce, on vient d'en parler, sur la finance, l'industrie, l'énergie. Mais dans notre économie française, la Chine a aussi pris une place considérable. À vos yeux, au commissaire, à la stratégie et au plan, est-ce qu'il y a des filières qu'il faut protéger? Mais je dirais à tout prix, coûte que coûte.
Ben, je vais vous dire de manière plus brutale, toutes. Parce qu'on va sortir dans quelques jours une note sur ce sujet qui, je crois, sera la plus actuelle et inédite dans son chiffrage. Toutes les filières industrielles européennes, le cœur productif, ce qu'on pourrait appeler de l'Europe, bien sûr la filière automobile, on le voit aujourd'hui, mais les machines-outils, des secteurs comme le textile d'excellence et d'autres qui sont encore importantes pour la France et pour l'Europe, toutes ces filières-là sont aujourd'hui soit déjà menacées, soit sur le point de l'être. Parce que si je résume, le modèle chinois, c'est aujourd'hui que vous avez des coûts de production qui sont souvent 30 à 40% inférieurs à nos coûts de production, avec en plus un effet monétaire, une dépréciation de leur monnaie, et en plus, maintenant, et ça c'est très nouveau, des produits, il faut le dire honnêtement, de meilleure qualité dans beaucoup de secteurs.
Ah bah on le voit dans les voitures électriques.
Exactement, oui. C'est un peu le slogan qui était, je crois, celui d'une grande marque automobile européenne il y a quelques années, il y a moins bien mais c'est plus cher. Bon, si l'Europe c'est moins bien et plus cher, on va avoir un problème. Et donc il faut deux choses, il faut un mur de protection pour beaucoup de secteurs, pas du tout les droits anti-dumping ciblés, ça c'est bien, et la France l'a défendu sur quelques secteurs comme l'automobile, mais il faudra quelque chose de beaucoup plus systématique.
Vous voulez dire, mais là est-ce que vous parlez de tarifs? Est-ce que vous parlez, par exemple, de 100%, une augmentation de 100%?
Ça peut être des tarifs. On a deux problèmes en Europe, si vous voulez, c'est qu'on le fait par secteur, on le fait lentement et on le fait à petite dose. Les Américains, par exemple, je ne dis pas que c'est un modèle, mais avant même M. Trump, ils pouvaient prendre des mesures anti-dumping quand il y avait une menace très brutale, 80, 100% de droits de douane, et en quelques semaines, là où on met plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce qu'on a connu, c'est le photovoltaïque, c'est le contre-exemple absolu. On était leader mondial en Europe dans le photovoltaïque. En 3 ans, on a été balayé par une stratégie délibérée de subvention et d'agressivité chinoise.
Donc il faut qu'on fasse. Clément Beaune, il faut qu'on mette des murs, il faut qu'on agisse très vite, il faut qu'on mette des murs.
Il faut qu'on change, là aussi c'est exactement comme les accords commerciaux, qu'on change le logiciel européen. Nos instruments de défense commerciale, comme on dit, il faut qu'ils soient beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides et beaucoup plus transversaux, qu'ils couvrent tous les secteurs. Et à côté de ça, moi je ne défends pas du tout l'idée qu'on va vivre isolé du monde, on va avoir besoin parfois de transfert de technologies de la Chine vers l'Europe. C'est ce qu'a évoqué le président de la République.
Ils n'ont pas l'air très parlants,
partout les Chinois. Sûr, mais,
bah, ils l'ont dit, justement. C'est ce qu'a dit le président de la République. Il leur a proposé, ils n'ont pas du tout topé. Hein.
Le monde dans lequel on est, on parle beaucoup des États-Unis, parlons aussi de la Chine, c'est un monde de brutalité, soyons clairs, bon, et de compétition féroce. Donc le président l'a dit très clairement. Si on peut y arriver de manière coopérative, c'est beaucoup mieux pour tout le monde, parce qu'il faut aussi que la Chine ait des clients. Si on abîme ses clients, on a un petit problème. Mais s'il n'y a pas de stratégie coopérative, il faut que l'Europe soit prête aussi à se défendre. Pas comme les Américains, c'est-à-dire avec une instabilité où chaque matin on allume son téléphone et on regarde le tweet de M. Trump pour savoir quels sont les tarifs. Avec des outils beaucoup plus rapides et beaucoup plus forts que ce qu'on a, mais de l'innovation aussi. Parce que si on veut rattraper notre retard technologique, il y aura peut-être des transferts de technologies à faire depuis la Chine, mais il faut aussi que dans des secteurs, et on n'est pas du tout condamné, comme la voiture électrique, comme l'IA, on soit bien meilleur qu'aujourd'hui. Ça, c'est le fameux rapport Draghi qui nous dit investissez, finissez votre marché intérieur qui est aujourd'hui encore très fragmenté en Europe et qui pénalise les entreprises. On a des outils et des atouts.
Clément Beaune, la seule chose, je vous entends sur l'économie, la seule chose qui nous fragilise, c'est plutôt la politique. C'est le fait que les 27 n'avancent pas. Là, on arrive sur un autre débat qui serait un débat politique. Oui. Je crois que c'est Bruno Le Maire, c'était avant-hier, il a fait l'ancien ministre de l'économie. Lui, il est carrément pour une union des nations à 6.
Oui,
on avancerait plus vite.
Bon. Je suis un tout petit peu réticent là-dessus, parce qu'il y a quand même un atout qu'on a, c'est le marché intérieur. C'est quoi le marché intérieur? C'est justement le marché des 27, qui fait 450 millions de consommateurs et qui, je le rappelle, est le premier marché ouvert du monde. Donc nous sommes une puissance commerciale, il faut quand même le redire, dont personne, ni les Chinois, ni les Américains, ne peut se passer. Simplement, on ne l'active pas, si je puis dire, cette puissance commerciale. On ne se défend pas assez et on n'en fait pas un atout stratégique.
Une question sur votre, sur une autre note. Celle-là, c'est donc celle à venir. La note que vous avez mise en place, que vous avez faite sur le Made in France et le Made in Europe, et cette proposition d'un éco-chèque. Alors, c'est sur le modèle des chèques. Si, parce que
oui,
c'est sur le modèle des chèques vacances jusqu'à 250 euros que les entreprises distribueraient aux salariés modestes. Même votre ancienne collègue au gouvernement, Prisca Thévenot, a écrit sur X, c'est une usine à gaz cette proposition.
Oui, j'espère qu'elle a lu la note avant de dire ça, parce que c'est pas une note sur l'éco-chèque, c'est une note sur la fast fashion. Ça rejoint ce qu'on disait sur la Chine. Ça, c'est un sujet d'avenir, et peut-être de court terme d'ailleurs un peu plus qu'on le croit, parce qu'il y a ce qu'on a vécu dans l'industrie, on est en train, et on risque de le vivre, dans le petit commerce et dans ce qui reste du secteur textile en France et en Europe. C'est-à-dire que si on est naïf, si on privilégie les prix bas à tout prix, non seulement c'est un problème social et écologique, on le sait sur la fast fashion, mais c'est aussi un problème économique. Parce que les emplois, il y en a près de 10 000 qui ont été sacrifiés depuis le Covid dans le petit commerce de l'habillement en France, depuis le Covid, en 5 ans. Si on continue comme ça, ce qu'on a vécu dans l'industrie, encore une fois, on va le vivre dans le commerce. Donc il faut se battre pour défendre, se protéger contre la fast fashion. Donc c'est des mesures d'abord, je pense là aussi, de protection, taxation, pas anecdotique, mais massive de la fast fashion pour mettre un coup d'arrêt, et de l'accompagnement au pouvoir d'achat. Il y a plein de mesures qu'on propose, dont celle-ci. Elle n'est pas farfelue. Moi, c'est mon ADN, j'essaie de regarder justement ce que font les autres pays européens. Il se trouve que la Belgique fait ça. L'éco-chèque, c'est comme le chèque vacances, c'est comme le chèque culture, par exemple. Je ne dis pas qu'il faut le faire partout. Et surtout, j'insiste, ce n'est pas un chèque d'argent public. C'est un dispositif totalement volontaire, expérimental, que les entreprises pourraient, si elles le souhaitent, faire. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est d'abord se protéger contre la fast fashion. Et puis, on propose aussi, par exemple, une TVA réduite. Ça, c'est une baisse d'impôt, ça devrait plus plaire, sur tous les actes de réparation de seconde main. C'est même le groupe LR qui le propose à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, on essaye de regarder les idées de tout le monde.
Alors, les idées, justement, l'actualité, c'est aussi le budget. Vous avez publié une tribune, c'est-à-dire dans le Figaro, avec le constitutionnaliste Benjamin Morel. Vous avez des propositions pour que ça marche mieux.
Oui.
Vous dites qu'il faut un budget pluriannuel et vous dites, alors ça, c'est surprenant, qu'il faut supprimer l'article 40. L'article 40, c'est justement celui qui interdit aux parlementaires de déposer des amendements qui diminuent les recettes ou aggravent une charge publique.
Oui.
Alors, vous n'avez pas peur du dérapage, là?
Bah, écoutez, le dérapage, il a eu lieu depuis longtemps.
C'est pas malgré comme si l'article 40.
Malgré l'article 40, c'est pas comme si l'article 40, qui effectivement contraint les parlementaires qui ne peuvent pas augmenter les dépenses, avait abouti pour la France depuis plusieurs années ou plusieurs décennies à un déficit qui serait le plus modeste d'Europe, c'est le contraire. Bon. Ou à une dette qui serait la plus modeste d'Europe, c'est le contraire aussi. Bon, donc ce que je dis simplement, c'est que dans un plan d'ensemble, on peut un peu responsabiliser, moi je suis pour la liberté, nos parlementaires. Parce que qu'est-ce que ça fait l'article 40 sans être trop technique? Ça fait comme vous pouvez pas augmenter les dépenses et que vous voulez parfois soutenir certains secteurs, par exemple, vous faites des crédits d'impôt. Donc vous mitez, comme on dit, la fiscalité française. Vous faites des petits trous un peu partout pour soutenir tel ou tel secteur, telle ou telle activité. Je ne suis pas sûr que ça soit génial en termes de transparence et en termes d'efficacité. Mais plus fondamentalement, on a un problème de pluriannualité. Là, on voit bien qu'on a une situation difficile parce qu'il n'y a pas de majorité. Mais
pluriannualité, ça veut dire que vous dites qu'il faut un budget sur...
Il faut un budget sur plusieurs années, trois ou cinq ans. Et ça a été proposé il y a quelques années, mais on n'était pas allé au bout de cette révision constitutionnelle, que ce budget de plusieurs années, il s'impose au budget annuel. Comme ça, on évitera aussi un peu un psychodrame chaque année, qui n'est pas nouveau, où on parle de trois mois, on a la procédure budgétaire la plus longue d'Europe, bon, et qui n'aboutit pas pourtant à la maîtrise des déficits. On passe trois mois chaque année sur le budget, voire plus en ce moment, et on ne maîtrise pas assez le déficit. Donc, on a un cadre qui donne aussi de la stabilité, parce que quand on est un ménage, un citoyen ou une entreprise, je pense que la fiscalité qui change chaque année, c'est pas génial non plus. Comme ça, on stabilise les choses.
Voilà, des propositions de Clément Beaune, le haut commissaire à la stratégie et au plan. Merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Marion vous a écrit d'Angoulême. Elle travaille en usine sur un poste qui ne nécessite pas d'ordinateur. Pour préparer son entretien annuel, son employeur lui demande de remplir un document numérique. Peut-il l'obliger à faire cela sur son temps personnel et sur son propre matériel informatique ?
L'entretien annuel, ça, vous ne pouvez pas y couper, Marion, même s'il n'est pas obligatoire au sens du Code du travail, il fait partie des prérogatives de l'employeur. D'ailleurs, ça peut être l'occasion d'échanges intéressants, d'où l'intérêt de bien y réfléchir en amont. En revanche, non, votre manager ne peut pas vous imposer de remplir ce questionnaire chez vous, sur votre temps perso. C'est une tâche qui relève des heures de travail. Et deux fois non, vous n'avez pas à le faire sur votre ordi ou votre téléphone personnel. C'est à l'entreprise de vous fournir le matériel ad hoc. On imagine qu'il y a bien un bureau disponible sur le site pour réaliser ce travail préparatoire. Marion, j'avais répondu à une autre auditrice qui demandait si son employeur pouvait l'obliger à télécharger une appli professionnelle sur son téléphone perso. Là encore, le site de la CNIL est très clair, vous êtes en droit de refuser. Si vous acceptez, l'entreprise doit prévoir des mesures de sécurité pour séparer vos activités professionnelles et privées.
Sandrine, si on revient à l'entretien annuel, c'est quand même mieux si Marion peut partir d'un bon pied. Alors que doit-elle avoir en tête ?
C'est un rendez-vous pour faire le point sur vos réalisations et vos compétences. Mais il faut savoir que vous devez être évalué, Marion, sur des critères précis, objectif et pertinent au regard de la finalité poursuivie. On pensait en avoir terminé avec les indicateurs psychologisants et totalement subjectifs. Mais non. En octobre, la Cour de cassation a donné raison à la CFDT. Le syndicat attaquait le système d'évaluation d'une entreprise agroalimentaire d'Ille-et-Vilaine. Les juges ont estimé qu'en marge des qualités techniques requises, l'abondance de critères comportementaux ne peuvent garantir une évaluation impartiale. Les notions de bon sens, d'optimisme, d'honnêteté sont trop moralisatrices et trop subjectives, ont-ils encore jugé. Enfin Marion, j'en profite pour vous signaler qu'un autre entretien, l'entretien professionnel, obligatoire celui-là, qui doit examiner besoins en formation et évolution de carrière, change de nom et de calendrier. Attention, ça s'appelle désormais entretien de parcours professionnel et il se déroulera tous les 4 ans au lieu de 2 ans aujourd'hui. Ce qui ne doit pas vous empêcher, évidemment, de garder un œil sur votre CPF et de prendre les devants.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.